Bien, mais écoutez, je vous propose qu'on commence la séance du conseil municipal. Il est 18h39. Donc, je vais procéder donc à l'appel. Monsieur Alain Alberti a donné pouvoir à monsieur Michel Morel. Madame Colette Alexandre, elle est bien présente. Monsieur Christian Bentoumi. Madame Laurence Berlemont est absente. Madame Anastasia Bringuet a donné pouvoir à monsieur Luc Pernet. Madame Jeanne Cavallaro a donné pouvoir à monsieur Christian Ventoumi, puisqu'elle était en sortie scolaire. Madame Gisèle Pernet, c'est de dire Pernet en fait, je vais m'y faire, madame Pernet. Monsieur Steve Courdouin, monsieur Jean Culinati, madame Géraldine Dudon a donné pouvoir à madame Colette Lair, elle est sur la route, elle arrive de Saint-Maximin. Madame Anaïs Dufeu, présente. Monsieur Max Fabre, monsieur Patrick Falentin, monsieur Norbert Giraud est absent, madame Marie-Sylvie Grosvert, monsieur Franck Jamin, il est présent, madame Colette Lair, monsieur Julien Lassoc, il est présent, monsieur Christian Lefebvre a donné pouvoir à Jean Culinati. Alors, il m'a chargé de vous dire un petit message de sa part. Il tenait à s'excuser de ne pas être présent. Ce conseil n'était pas forcément prévu à cette date. Il avait des congés loin qui étaient prévus. Donc, il n'a pas pu repousser son voyage. Donc, voilà, il tenait à dire, je l'ai eu au téléphone. Il nous envoie régulièrement des textos pour suivre les travaux de la commission d'urbanisme. Donc, je peux vous dire, il vous suit à distance. Donc, je veux dire, un message de sympathie de sa part et qu'il nous souhaitait un bon conseil ce soir sur une étape qui est quand même assez importante dans la vie de notre commune et vu sa délégation. Monsieur Michel Morel. Présent. Monsieur Luc Perny. Madame Corinne Rinaudot. Présente. Monsieur Georges Emonin. Présent. Monsieur Olivier Barral va arriver. Et madame Josiane Villain est absente. Et madame Sophia Kouach est absente. Nous avons le quorum, donc nous pouvons commencer ce conseil municipal. Deux délibérations. Première délibération, c'est, on a profité qu'il y avait un conseil pour insérer cette délibération. C'est une demande de subvention de l'air fitness. Alors c'est, en fait, c'est une subvention d'opportunité. Il y a un programme, c'est 5000 équipements sportifs financés par l'État. Et donc l'idée, c'était de déposer un dossier. On en parlera. L'idée, c'est de proposer ce dossier-là, à savoir que j'en ai revalider le principe avec M. Leroux, c'était pour valider un premier dossier. Il sera possible, évidemment, d'amender le projet par la suite, tant qu'on reste dans le sport. Il ne faut pas sortir un autre projet, mais il faut qu'on reste dans cela. Donc là, c'est ce qui a été proposé. C'est une petite étude qu'on a fait rapidement pour pouvoir répondre à la demande et pour pouvoir être éligible à cette demande de subvention. Et après, on affinera par la suite en commission le projet, comme on pourra le faire par la suite. Monsieur Fabre, la parole est à vous.
Alors, annoncé par le président de la République le 14 octobre 2021, le plan 5000 terrains de sport vise à accompagner le développement de 5000 équipements sportifs de proximité d'ici 2024, année des Jeux Olympiques d'été à Paris. Pour s'inscrire pleinement dans la dynamique nationale de valorisation de la pratique sportive et favoriser son accès au plus grand nombre, la commune du Val souhaite compléter et varier son offre d'infrastructures sportives en créant une aire de fitness extérieure en libre accès. L'équipement sera constitué d'un décagone dont chacune des 10 faces est formée par un agrès. Alors on le voit sur la diapo. Alors, il y a 3 agrès qui sont destinés à des ateliers de cardio-training et 7 agrès qui sont destinés à des ateliers de musculation. Ce choix permet donc la création d'un parcours complet et varié sur une emprise relativement faible, 71 mètres carrés, s'insérant parfaitement dans son environnement. Implanté sur le complexe sportif de la Roguière, à côté du City Stade, cet équipement sera accessible à tout public, hommes, femmes, adolescents de plus de 14 ans, et sera également mis à disposition des associations sportives via des conventions d'utilisation. Le coût de l'investissement s'élève à 33 183 euros hors taxes, soit 39 819,60 euros TTC. Monsieur le maire demande au Conseil de l'autoriser à solliciter une subvention auprès de l'Agence nationale du sport dans le cadre du dispositif 5 000 terrains de sport à hauteur de 26 546 euros, représentant 80% du coût de l'investissement. Alors, le financement, l'Agence nationale du sport, c'est 80%, 26 546. L'autofinancement par la commune, 20%, 6 637 euros, ce qui fait un montant hors taxe de 33 183 euros. Voilà, monsieur le maire.
Merci. Donc, c'était un des projets qu'on avait inscrits dans nos programmations. Comme je le dis, voilà, c'est une façon de pouvoir valider, parce que le premier arrivé, premier pas servi, mais au moins être sûr que le dossier soit étudié. Monsieur Leroux, vous avez reçu les services. À peu près combien avait été déjà doté de cette subvention ?
J'ai pas le bon les deux tiers de la
voilà.
Déjà...
Voilà, c'est les deux tiers. Voilà, c'était ça le chiffre que j'avais en tête. C'est les deux tiers donc de l'enveloppe allouée à l'échelle nationale est déjà attribuée. Donc c'était pour plus on attend, plus on perdait de temps. Donc on essaye, on tente. On va à la pêche, on va voir si ça marche. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le principe de la subvention ? Oui, monsieur Lassoc ?
Est-ce que pour l'inauguration, les élus devront tester les agrès ?
Évidemment.
Alors je pense que ça sera faisable parce qu'ils sont tous réglables. Autrement dit, on peut régler la puissance de l'effort.
Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que l'on mette au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, je vous remercie. On vous tiendra informé. Et donc, nous allons passer à la deuxième délibération objet de ce conseil. Il est important de faire un conseil dédié, je pense, à l'élaboration, plutôt à la révision du plan local de l'urbanisme. Et donc, une étape qui est très importante, c'est le PADD. Donc c'est le projet d'aménagement et de développement durable. Alors avant de peut-être lire la délibération, je voudrais qu'on repartage l'essentiel du projet. Je ne vais pas vous relire évidemment l'ensemble du rapport. Nous l'avons vu ensemble, nous l'avons balayé, nous l'avons corrigé, nous l'avons amendé. Il me semble important quand même de retracer quand même les principaux éléments. Je voulais juste rappeler quand même le contexte. C'est plus d'une quinzaine de réunions publiques au total que l'on a fait. Deux grosses réunions à la clôture, avant de clôturer le PADD. Un atelier participatif pour vraiment affiner. Et une présentation du PADD aux habitants avec un débat qui a eu lieu, qui était très intéressant, moi, je trouvais. Et j'ai trouvé qu'il y avait une belle adéquation entre l'objectif du projet et les retours des habitants, avec des inquiétudes partagées, forcément. Et des orientations à définir, et c'est l'objet. Donc ça, c'est cette première étape. Viendra, une fois qu'on aura validé cette étape du PADD, la commission dédiée au PLU continuera dans ses travaux sur les OAP, donc les opérations d'aménagement programmé, comment on va aménager certains secteurs stratégiques, et ensuite on travaillera sur le zonage. Et là, il y aura une discussion avec les habitants, puisqu'on reçoit des requêtes de personnes qui demandent de changement de zonage. Souvent, c'est plus pour aller vers du constructible que de l'inconstructible. Donc, ces demandes-là seront évidemment, de manière légitime, étudiées en cohérence avec un projet global. C'est ce qu'on a expliqué. On ne fait pas un PLU en fonction de la somme des demandes individuelles. On regarde d'abord l'intérêt général et après, on étudiera en fonction. Et s'il y a une pertinence de passer certaines zones, soit en agricole, soit en zone naturelle, soit en zone d'activité ou urbaine, eh bien, si ça correspond à l'aménagement et à l'intérêt général, évidemment qu'on le fera. Et il y aura après, à ce moment-là, d'autres réunions qui vont se mettre en place par la suite. Donc, le projet d'aménagement, et donc là, c'est la version que vous avez reçue en annexe. On peut avancer, monsieur Leroux. Si vous voulez, on peut aller directement. Donc là, sur les éléments, donc c'était le partage de l'ambition, vers quel territoire on voulait aller. La réflexion première, à mon sens, du PADD, c'est de poser les bases sur le projet, la philosophie du Val dans les 15-20 ans à venir. Comme on l'avait dit, la question première, c'est de dimensionner la démographie en fonction de la question de la ressource en eau. Aujourd'hui, on en parle de partout. Nous, ça fait 3 ans qu'on y réfléchissait. Et donc, l'idée, c'était de réduire l'évolution démographique. sachant que l'objectif n'est pas d'atteindre une non-évolution, c'est-à-dire une stabilisation, puisque là, dans ce cas-là, le foncier augmenterait de telle manière que ça serait plus possible de venir s'installer sur le Val. Donc il faut trouver un équilibre entre ce que les ressources naturelles peuvent nous amener, mais aussi lutter, faire face au changement climatique, aux inondations, à la question de l'eau potable, et comment aménager nos territoires. Donc on est passé sur un objectif démographique de 6500, 7000 à autour de 5200 à peu près. Ça c'est les objectifs à 15-20 ans. Ça fait une production d'environ 400 logements, sachant qu'il y en a 100 qui sont déjà existants dans le centre ancien. Donc c'est 300 logements et préférentiellement plutôt sur la continuité de rue, avec quelques possibilités de maisons individuelles en fonction des zonages pour terminer, on va dire, certains secteurs, et après privilégier ce que la loi nous demande, puisque nous sommes contraints par plusieurs types de lois. Il y a le ZAN notamment, le zéro artificialisation nette, et les principes de la loi Allure, SRU, etc., que nous connaissons tous depuis qu'on parle de ces réflexions autour du PLU. Peut-être un peu balayé, monsieur Leroux. Oui, on va descendre. Donc, pour rappel, donc la première partie, c'était le rappel réglementaire. C'est vraiment, donc d'abord, il y a le PADD. Ensuite, on va travailler sur les OAP. Et après, on va travailler sur le zonage et le règlement, ce qu'on appelle le règlement qui est en adéquation. Règlement écrit et graphique. Donc, c'est le zonage et ce qu'on y fait. Et on voit depuis 2019, je sais que la commission d'urbanisme travaille sur toutes les petites erreurs, les coquilles qu'on pourrait voir dans le règlement actuel. Et donc Marc, et c'est le service urbanisme qui tient ce cahier pour qu'on puisse éviter de reproduire les mêmes erreurs dans le futur document, puisqu'il y a des incohérences qui peuvent tomber dans certains cas et qui rendent plus difficile l'interprétation et l'instruction des dossiers. Donc là, c'est sur la partie l'ambition. Eh bien, c'est vraiment l'idée, c'est ce que je vous disais sur la partie de la démographie. On peut avancer, monsieur Leroux. En fait, on a connu une très forte augmentation démographique sur le Val au cours des dernières décennies. En toute proportion, si on compare avec les autres communes, la démographie a été multipliée par 4 au Val par rapport aux autres communes. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, on a absorbé un gros flux migratoire sur le Val. Maintenant, on tend vers une stabilisation, on va ralentir petit à petit la croissance pour permettre d'assurer un cadre de vie et être en harmonie avec ce qu'on avait défini avec les habitants, c'est-à-dire ce qui caractérise l'esprit village et donc l'identité de la commune et qui fait qu'on aime bien y vivre. Encore faut-il se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'une identité. Et donc ça a été un des premiers travaux et on peut avancer, monsieur Leroux, puisque c'est finalement le triptyque qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'on a dit que chaque orientation qu'on a travaillé au cours de la quinzaine de réunions, 15 réunions qui ont permis... Monsieur Leroux, on peut remonter. Je rappelle le contexte, c'est important quand même pour la... merci. Une quinzaine de réunions qui sont découplées finalement en 4 grandes étapes. Une première étape, c'est l'émergence de la philosophie du projet 2017-2019 et qui a permis de mettre en place une charte qui s'appelait « Vivre heureux au Val, c'est possible ». Je vois dans le public certains qui sourient, qui se rappellent de cette période-là, mais ça a permis de définir les grandes idées phares, en tout cas de ce qui nous semblait important à intégrer dans le cadre de la réflexion. Et je pense notamment derrière nous, enfin devant la mairie plutôt, là il y a les travaux au niveau de la poste, de la supérette, ce projet-là, l'idée est née lors de ces travaux menée par l'initiative citoyenne. Donc pour dire que l'action citoyenne peut aussi porte, en tout cas, sur le Val, et c'est important qu'il y ait cet écho. Donc ça, c'était la première étape, l'émergence. Ensuite, on est parti avec les habitants sur un diagnostic de notre vision du territoire. Qu'est-ce que nous, en tant qu'usagers du territoire du Val, en tant qu'utilisateurs des espaces publics, on percevait bien les fonctionnalités et les non-fonctionnalités, c'est-à-dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. On a bien vu que la question de la mobilité, par exemple, était un frein aujourd'hui et que c'était quelque chose qu'il fallait travailler. On avait vu plusieurs questions. Donc ça, c'est le diagnostic par les habitants qui a été mis en place. Et ça nous a permis après de dégager un projet de territoire en 2020-2022 Ce projet territoire, c'est notre projet politique que nous menons. C'est le grand tableau que vous connaissez, qu'on déroule au fur et à mesure. Et ce projet territoire-là, il est porté par l'action politique et donc doit se retrouver évidemment en harmonie avec le plan local de l'urbanisme. Ce qui nous amène à l'étape actuelle, c'est la pleine révision du PLU qui se connecte à toutes ces phases que je viens de décrire précédemment. Et donc cette révision-là donc, nous amène à utiliser une méthode. Vous pouvez descendre, monsieur Leroux. Et cette méthode, c'était d'être en harmonie avec une phrase guide, puisqu'on a fait les derniers travaux nous ont permis de déterminer une des raisons d'être du Val, parce que je pense qu'il y a plusieurs raisons d'être, mais une des raisons d'être à ce moment-là, c'était la félicitation, la collaboration sur l'accompagnement de dynamique d'habitants dans un esprit de durabilité, d'attractivité, qui permet de mobiliser les ressources du territoire en faveur de l'épanouissement, respectueux du vivant, respect la biodiversité, les humains, l'esprit village et l'ensemble des habitants. Dans ce qui caractérise beaucoup le Val, c'est la solidarité. On le voit à chaque fois qu'on a eu besoin de mobiliser les habitants, ça marchait. Et donc, je pense que c'est vraiment ça qui caractérise les habitants. Et donc, pour faire face, eh bien, pour développer ça, l'idée, c'est de développer une stratégie. Et cette stratégie-là, c'est d'élaborer des orientations avec une démarche transversale. Transversale, c'est-à-dire avec trois prismes, trois points de vue qui nous permettent d'assurer que quand on prend une orientation, on respecte à chaque fois l'équilibre de ces trois points. Vous pouvez avancer, monsieur Leroux. Donc ces trois points, c'est nous sommes questionnés sur l'identité, c'est respecter l'identité quand on développe un projet, eh bien, il faut se questionner qu'est-ce que l'identité valoise. C'est un respect du village, c'est un respect de ses collines, de son cadre de vie, de ses habitants et de leur volonté de participer. Mais c'est aussi l'attractivité, ça c'est le deuxième point aussi que les projets doivent répondre, c'est-à-dire assurer une forme d'attractivité touristique, commerciale, culturelle, sociale, évidemment, et donc de permettre donc d'assurer cet équilibre d'économie locale qu'une communauté a besoin d'avoir. Et enfin, le troisième point, important, c'est la question de la transition. Et la transition du Val, on l'a définie comme étant un objectif d'aller vers plus de résilience. Alors la résilience, c'est quoi? C'est s'adapter face à un changement. Un changement climatique, un changement sanitaire, un changement sociétal aussi. La crise démocratique, il faut s'y adapter aussi. Et donc c'est toutes ces questions-là, donc c'est la résilience qui y répond. Donc l'idée, c'est que le PLU du Val doit s'articuler autour de trois axes. Ces trois axes, c'est l'identité, l'attractivité et la transition. Et à partir de là, on va définir les grandes orientations, comment on va déployer notre programmation en termes d'aménagement. Parce que l'urbanisme, ce n'est pas uniquement construire. Hein. L'urbanisme, c'est développer de la forêt, c'est une forme d'urbanisme. Et souvent, on utilise le mot urbanisme en pensant aux constructions. Mais non, c'est pas uniquement ça. Vous pouvez avancer, monsieur Leroux, aussi. Parce que là, c'est vraiment le détail, là, on rentre vraiment dans le détail dans le document écrit. On a voulu vraiment expliquer les éléments. Et donc, la stratégie, c'est donc d'assurer six axes, six orientations. La première orientation, c'est composer le village de demain, un village solidaire, intergénérationnel et respectueux de son environnement. Et donc, évidemment, cette orientation doit répondre à la question de l'identité, de l'attractivité et de la transition. Également, on a assuré la continuité paysagère entre les espaces naturels et urbanisés. Il y a eu un fort étalement urbain sur la commune du Val. Maintenant, comment on réimagine le fonctionnement, comment on réimagine l'aménagement pour préserver cet écrin de verdure qu'il y a autour, qui caractérise la couronne de la vallée du Val, et quel lien on va faire entre les constructions, les champs et les espaces naturels. Le troisième point, c'est développer le Val en respectant les cycles de l'eau. Alors, il y a deux cycles d'eau. Il y a le petit cycle de l'eau, qui est très important. C'est celui qui nous permet d'avoir de l'eau potable à la maison, mais aussi de traiter les eaux usées et de les rejeter dans le milieu naturel. Et ce petit cycle-là, il peut nous poser problème aujourd'hui. Justement, lorsqu'il y a moins d'eau, eh bien, on se pose la question comment on redistribue notre eau, comment on l'utilise. Et après, il y a le grand cycle de l'eau, évidemment, celui qui nous permet de gérer à la fois les inondations et la question de l'accessibilité de l'eau. Et là, je pense au festival dédié autour de la question de l'eau, hein, en Provence, entre peu d'eau ou trop d'eau, comment aménager nos territoires ? Eh bien, c'était une des questions importantes qu'on a eues il y a quelques semaines, et je pense que c'est un des grands défis du PLU du Val aussi de répondre, comme l'ensemble des communes du territoire. C'est repenser aussi une mobilité sobre en énergie et au service du territoire. Donc là, c'est clairement les cheminements doux, comment on imagine des voies parallèles qui nous permettent de venir au village, mais aussi d'aller dans les quartiers et d'aller vers Brignoles, par exemple, sans prendre la voiture. C'est un défi, il y a des possibilités, on doit le prévoir dans les documents d'urbanisme. C'est également encourager une forme d'agriculture adaptée au territoire, au service des habitants et respectueuse de la qualité du cadre de vie. Donc c'est une question aussi qui est importante. Et enfin, participer pleinement aux défis de la transition énergétique et climatique. Là, il y a des grosses réflexions à avoir aussi en termes d'énergie renouvelable et comment mieux nous adapter face au dérèglement climatique. Donc comme je le disais, voilà, ces six grandes orientations sont vues depuis le point de vue de l'identité, l'attractivité et la transition. On avait défini ensemble, rappelez-vous, pour chacune de ces six orientations, des objectifs à atteindre. Donc on ne va peut-être pas les redéployer maintenant, vous les avez déjà, mais ça a été présenté en public. Tout est présenté dans ce document-là qui sera disponible après le vote. C'est-à-dire qu'on l'envoie en préfecture et dès qu'on a le retour de la préfecture, évidemment, pour le public, on vous mettra le document à disposition puisqu'il fait partie des pièces après officielles et c'est important. Donc voilà un petit peu les éléments. Peut-être aller sur les idées de cartographie, les éléments de cartographie, ça me semble important. Donc le choix qu'on a fait, c'est vraiment un PADD qui est un petit peu atypique dans le territoire, parce que c'est un document qui fait 40 pages, 50 pages à peu près. Habituellement, les PADD, c'est plutôt des diapos et ça va très vite. Nous, on a vraiment voulu inscrire ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas, surtout. Donc dans les éléments de cartographie, là, c'est l'identification des secteurs à enjeux. Alors ce n'est pas exclusif, il peut y avoir d'autres enjeux qui vont se dégager au fur et à mesure de l'élaboration du zonage. Mais déjà, ce sont les grands secteurs qu'on a repérés avec des grands enjeux. Et je suis certain qu'il y aura d'autres enjeux qui vont sortir au fur et à mesure de ce travail qu'on va élaborer au cours des mois à venir. Donc tout d'abord, c'est les trois premiers secteurs, 1, 2, 3, qui sont en fait les quartiers limitrophes au village historique. Monsieur Leroux, vous pouvez descendre, s'il vous plaît, vers le focus. Le secteur 1, 2, 3, donc c'est avec le secteur 1 qui est, on va dire, plutôt quartier Joubert, au sens large étendu, hein, Joubert, Jappel, qui a vocation de création d'une rue, la rue du 11 novembre, avec des maisons de village, de conserver les champs limitrophes, ne pas permettre d'autres de construction. Cette rue pourrait accueillir en rez-de-chaussée des commerces. Et le but, c'est de faire le lien entre le centre-village et les commerces qui se sont installés aujourd'hui sur la déviation, de freiner justement cette attractivité naturelle et qu'on comprend qu'il va vers où il y a le client. Il y a 17 000 voitures qui passent. On comprend que le commerçant veut aller plutôt vers là. Et l'enjeu sociétal pour le Val, c'est plutôt de rattirer vers le centre. Donc, c'est de vraiment permettre des surfaces petites à moyennes, 200 mètres carrés en rez-de-chaussée, pas de boîte à chaussures, pas de commerce isolé comme on peut l'avoir aujourd'hui. Donc, c'est plus permettre ce type de développement. Permettre l'aménagement de parcs assez grands pour cadrer le paysage depuis la déviation entre la coopérative et le rond-point vu vers le village. Et une réflexion de l'autre côté de la déviation sur des équipements sportifs qui pourraient être installés afin de ceinturer, on va dire, derrière les derniers commerces qui se sont installés et de préserver la zone agricole de l'autre côté sur la partie plus à l'ouest pour clôturer cette zone-là et donc la figer. Le secteur 2, c'est plutôt là, on est sur l'aménagement d'équipements en grande partie à vocation publique. C'est l'installation de la future crèche intercommunale. C'est le centre culturel, la salle polyvalente dont on a besoin, dans le grand terrain qu'on appelle tous le terrain Chabas. C'est l'installation du bassin de rétention pour la préservation des inondations. Et un parking, ainsi qu'une réserve foncière qui peut être aménagée en parc en attendant. Il y a une réflexion sur la question de l'énergie dans ce secteur, notamment l'école, on en a déjà parlé, sur la production d'énergie par photovoltaïque, mais aussi des études, puisque la nappe n'est pas très profonde, nappe de surface, je précise, sur la géothermie, et qui permettrait de faciliter la production d'énergie renouvelable. Et de l'autre côté de la déviation, à proximité de la zone de plan de quartier, ça serait une extension potentielle de la zone d'activité, avec des hangars plutôt grands, modulables, qui permettent de suivre l'activité. L'activité d'aujourd'hui n'est pas celle dans 10 ans, et donc si on a des modules à l'intérieur des bâtiments qui permettent de pouvoir s'adapter, ben, ça nous permettrait de répondre en fonction de l'offre et de la demande. Et enfin, des zones d'équipement public dans ce secteur-là, services techniques par exemple, mais aussi les locaux de la réserve communale de sécurité civile, puisqu'aujourd'hui, nous garons nos véhicules dans une zone qui est inondable, ce qui est très bien pour gérer la crise lorsqu'il y a des inondations, par exemple. Également, les services techniques, on a besoin aussi d'eux et on ne peut pas rester comme nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut qu'on planifie différemment et c'est ce qu'on propose en zone 2. Et enfin, en zone 3, donc là, on est vraiment sur la partie qui a été la partie, le bout de la rue la rue nationale. Dernière rue agrandie dans les années 1900-1940. Et après, l'extension du village s'est arrêtée sur cette modalité-là pour plutôt se développer selon le modèle de la maison, piscine, comme on connaît aujourd'hui. Et donc là, la réflexion se porte sur ce secteur-là avec justement recréer de la rue entre la rue du National et le secteur de la Roguière pour redonner de l'attractivité dans ce secteur qui finalement, ben, on voit très bien qu'on n'a plus envie d'aller au bout de la rue du National. Donc il faut créer une connexion qui permette justement de reventiler avec de l'habitat plutôt en quartier, en éco-quartier, en tout cas un quartier plus durable. Et donc ce qui nécessite une réflexion sur la zone sportive qui est en plein centre-village et plutôt de la déporter en zone 1, comme on l'a dit. Et là, ça nous permet d'avoir de nouveaux équipements qui répondront à la démographie actuelle, puisqu'on voit très bien que le complexe sportif aujourd'hui est trop petit pour notre population. Il a été construit lorsqu'il y avait 2500, 3000 habitants. Aujourd'hui, on en est 4500 quasiment. On voit très bien qu'on est limité, donc il faut qu'on imagine d'avoir des installations qui soient plus en adéquation. Donc cette idée-là, c'est de projeter sur les 15-20 ans, voire plus loin. Donc, mais si on ne définit pas, on ne bloque pas les zones aujourd'hui, malheureusement, eh bien on peut avoir des lotissements qui apparaissent dans la zone 1, et je pense que ce n'est pas ce qu'il faudrait avoir ici, dans ce secteur-là. Donc il faut qu'on le préserve à présent. Ou de très gros commerces. Et je pense aussi dans la zone 1, c'est l'accompagnement au niveau de la coopérative sur le projet de halle de producteurs à la place de surfaces beaucoup plus grandes, comme on avait pu en entendre parler à une certaine époque. Donc ça, c'est le zoom sur secteur 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Non? Oui, Steve?
Alors, c'est juste un petit détail. C'est juste pour l'accès à la future aire sportive, on va dire, dans la zone 1. Il y a une déviation, comme on l'a dit, avec 17 000 voitures. C'est comment on peut faire traverser les gens de manière sécuritaire. Enfin, moi, j'ai déjà posé la question. Je me doute, c'est pour globaliser la question, c'est comment on fait parce que c'est la question que vont poser beaucoup de parents. C'est aller au stade maintenant, les enfants peuvent y aller à vélo et maintenant...
Alors, ceux qui habitent dans le village, oui. Ceux qui habitent à l'extérieur. Les 1000 habitants dans le village, aujourd'hui, pour aller au stade, ils passent par le centre-village et les routes qui sont utilisées par les voitures. Les 3 500 habitants extérieurs, et c'est la voiture. Donc la question, évidemment, c'est la traversée. C'était la question qui s'était posée lorsque la pharmacie s'était délocalisée de ce côté-là. Et là, en ce moment, je circule dans différentes communes pour différentes réunions. Je pense que selon comment on peut orienter les choses, à Méhoun, il y a un feu rouge. On peut aussi on peut sécuriser encore de manière plus importante le passage piéton, pour permettre l'accès qui est déjà existant. On a mis le terre-plein central pour ralentir les voitures, ça marche bien. Le Dodane qui est assez conséquent, qui a un plateau qui ralentit bien. Et je pense que là, il faudrait peut-être aller plus loin dans la sécurisation. Mais il faudra évidemment mener comment sécuriser un maximum. Et après, on peut privilégier aussi le passage par le côté droit de l'homme. Il y a aussi le pont qui avait été aménagé, qui passe sous la déviation, le tunnel, ouais, qui permet de reconnecter de l'autre côté.
C'est surtout que c'est une départementale et on sait que le département pour ce genre de travaux est toujours un peu, c'est des négociations toujours compliquées, hein. On veut toujours, nous on voudrait un rond-point plus haut par exemple, c'est compliqué à obtenir, là c'est des travaux à chaque fois.
Mais justement c'est en fait
tabou, c'est pour ça nous on pense à des choses intéressantes, après c'est pour tout mettre en place avec un autre acteur qui a peut-être d'autres visions de ça, c'est ça qui
alors ils sont associés, ils ont été associés à ce projet là. Donc, en fait, si vous voulez, quand on a présenté, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on a fait la réunion publique, on l'a travaillé ensemble, on a fait la réunion publique, mais aussi il y a les PPA. Et dans les PPA, c'est l'ensemble des institutions, le département est convié et était présent aux réunions. Et justement, le rond-point dont tu parlais sur la route de Barjols, en fait, ils attendent qu'on sorte nos installations publiques pour installer le rond-point. Ils ne vont pas faire un rond-point pour faire un rond-point. Donc, ils veulent être sûrs qu'on soit prêt à mobiliser des moyens financiers, des demandes de subventions. Et à ce moment-là, la négociation est beaucoup plus forte puisqu'il y a un projet structurant qui se met en place et donc ça nécessite un aménagement plus global. Mais tout à fait, c'est des réflexions qu'il va falloir porter par la suite. On va passer aux autres zones. Monsieur Leroux, si vous pouvez repasser à la carte.
Non.
La première. Donc ça, c'était 1, 2, 3. 4, c'est le secteur du Carnier. On a eu des porteurs de projets qui nous ont demandé si on pouvait faire quelque chose, notamment sur la question de la baignade. On voit très bien que l'ensemble des sites naturels de baignade se voient fermés par la préfecture pour préserver les milieux. Et donc la question de la baignade dans des sites plus anthropiques, comme le lac du Carnier, se pose, à savoir que l'agglomération mène dans le cadre du plan de tourisme, une réflexion sur le lac du Carnier et le lac de Vins, puisque les autres lacs sur le territoire ne sont pas autorisés à la baignade. En tout cas, nous, on va inscrire une réflexion sur comment concilier entre mémoire, puisque c'est un lac hérité de l'histoire du bassin minier. Je vous rappelle, il y a une exposition autour de la mine en ce moment au rez-de-chaussée. Comment garder ces éléments patrimoniaux historiques, concilier la biodiversité qui peut se développer dans ces milieux anthropiques et qui est assez forte, et l'activité de nature qui peut être soit de la baignade, soit l'activité de pêche qui est actuelle. En tout cas, il y aura une réflexion à mener sur ce secteur-là, numéro 4. Ensuite, il y a le secteur numéro 5. Donc là, c'est plutôt le secteur des propriétés de la commune, le secteur des Brasques, où il y a les bois sur la partie sud, puis le domaine de la piscine et de Château-Renard sur la partie nord, d'avoir une réflexion sur une activité agro-silvopastorale, mais aussi de tourisme, de loisirs, de plein air. On voit que c'est un site qui a le parcours de santé. Il y a une réflexion sur l'intégration d'autres activités. Je pense au paintball, par exemple, à d'autres activités qui peuvent se développer, le développement de la ferme communale qu'on est en train de rénover. Donc voilà, c'est plutôt d'avoir cette orientation là, à ce niveau-là, mais en le conciliant avec une activité, je pense, autour de l'agriculture. Le secteur 6, là, c'est le secteur à l'arrière de Paracol, hein, qui prend Paracol jusqu'au QI, donc c'est le Vao des Flammes, les Meillans. Là, on voit que c'est des secteurs qui sont régulièrement soumis aux incendies, donc la question de la DFCI est importante. Et donc, ça pourrait être une zone potentiellement agricolable, au sens de le plan de reconquête mené par les services de l'État. Donc ça pourrait être la reconquête agricole dans certains secteurs qui pourraient être associés, évidemment en adéquation avec la question de l'eau. Il ne faut pas y développer une agriculture qui soit demandeuse en eau, hein. Là il faut plutôt des choses qui tiennent mieux en milieu aride, puisque là on est vraiment sur des secteurs de collines, et donc de valoriser également dans un programme expérimental la revalorisation du petit patrimoine rural, les cabanons, les oratoires, les ouvrages liés à la pierre sèche, au patrimoine lapidaire. Donc ça serait une réflexion au niveau du sanctuaire de Paracol, mais aussi dans ces secteurs-là. Il y a des boris, il y a 5 ou 6 boris présentes sur le secteur. Il faudrait pouvoir peut-être les permettre de les protéger. Donc le code rural et le code de l'urbanisme le permettent en milieu naturel, dans certaines prescriptions, et c'est ça qui est proposé de définir dans ce secteur-là en premier. Et puis si on voit que ça fonctionne bien, pourquoi pas dans une prochaine révision simplifiée de l'étendre à des secteurs plus étendus sur l'ensemble de la commune. Et enfin, le secteur 7, eh bien, c'est cadrer l'activité liée à la chute du Grand Bao, comment accompagner, concilier tourisme et protection de biodiversité dans un site Natura 2000. voilà un petit peu les éléments. Je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a des questions sur les secteurs 4, 5, 6 et 7 ? Non ? Bien, on peut continuer. Donc, les cartes d'après, c'était des enjeux. Alors là, il y a eu une erreur matérielle sur la... Vous pouvez descendre, monsieur Lourou, encore. Donc là, c'est toutes les zones qui sont décrites, hein, les différents secteurs, on avait dit. Et donc là, ce que vous n'avez pas eu, et donc là, je veux vraiment votre attention, parce qu'on en avait parlé, mais vous ne l'avez pas reçu. On va d'abord mettre la carte, et après, on va relire le texte ensemble. C'est la cartographie de repérage des zones à potentiel agricole, déjà existantes ou à ouvrir. Donc là, ce qui a été repéré, c'est dans les différentes patates, c'est les zones existantes agricoles. Et il y a la question, comment cadrer les règles d'urbanisme dans ces zones-là ? Est-ce qu'on autorise la construction d'une maison individuelle dans une zone agricole et on favorise le mitage ? Ça, c'est une question qu'on s'était posée. Et il y a la question de la zone que je vous ai présentée précédemment, qui est représentée ici en pointillé, qui est la zone agricolable. Donc l'idée, c'est de définir des règles strictes dans ces secteurs-là. Et donc les orientations qui sont proposées, M. Leroux, si vous pouvez remonter... C'est donc le PADD donc, identifie plusieurs secteurs en jeu agricoles où une attention particulière devra être portée dans l'élaboration du PLU afin de maintenir, voire renforcer l'activité agricole. Dans les espaces déjà ouverts à l'agriculture, entrée plein sur la cartographie que je viens de vous présenter, le PLU veillera à stopper la fragmentation des espaces agricoles pour empêcher le mitage du foncier et conserver des ensembles cohérents. Limiter la constructibilité aux seuls équipements nécessaires à l'activité agricole en excluant la construction de nouvelles unités d'habitation. L'idée, c'est d'accompagner s'il y a besoin d'un hangar pour stocker du fourrage, pour faire de la transformation, eh bien, permettre la construction de ces bâtiments-là pour accompagner l'activité agricole, mais de dire qu'on ne peut pas construire de maisons. Et on sait très bien les dérives qu'il y a pu y avoir par le passé, où des gens avaient une activité agricole, ont fait une maison, puis 3 ans après, il n'y avait plus d'activité agricole, et c'est terminé. Et ça, c'est un réel enjeu auquel il faut faire face. Mais aujourd'hui, si ce n'est pas clairement dit dans un document d'urbanisme, eh bien, on se pose beaucoup de questions. C'est le cas que, des fois, on a eu quelques dossiers, on a déjà été confrontés sur des activités où on soupçonnait que c'était un montage, on va dire, provisoire. Donc là, je pense qu'il est important de bien l'affirmer dans le document. Et dans l'espace de reconquête agricole, dit agricolable, donc c'est le secteur en pointillé sur la cartographie, donc le PLU veillera en plus à favoriser le développement de l'activité agricole, par exemple par l'agro-silvo-pastoralisme, tout en conciliant les visions agricoles, défense des FCI, et préservation de la biodiversité. Le but étant, c'est, on a des bois qui peuvent être intéressants, c'est pas de tout déboiser pour faire de l'agriculture, mais c'est de concilier des pare-feux et de leur donner une vocation agricole lorsque c'est intéressant, et lorsque, par contre, la biodiversité nécessite une préservation, mais c'est qu'on n'aille pas ouvrir ces milieux qui sont fermés actuellement. Oui, Steve.
Moi, sur cette partie, il y a... Un truc qui m'embête un peu, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, grâce à nos AOP et tout ça, vers chez nous, il y a des champs de vignes à perte de vue. Je ne trouve pas ça esthétiquement très joli. Et bon, même si j'aime bien boire du vin, je trouve qu'il y a beaucoup de production pour moi seul. Est-ce qu'on ne peut pas encadrer ça ? Parce qu'il y a quand même, au sein du département, quand on n'a plus d'AOP ou quoi, on a quand même, du coup, vu que la vigne a moins de valeur, on a du coup des gens qui vont faire des salades, des tomates, des quoi que ce soit, enfin, ou des patates qui demandent peut-être moins d'eau. Est-ce qu'on peut un peu tenir ça ? Parce que sinon, si on ouvre des trucs pour l'agriculture et tout ça, qu'on a des vignes encore et encore et encore, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, c'est pour avoir des kilomètres, des hectares et des hectares de vignes. Oui, la personne qui va planter des vignes va faire du vin et gagner de l'argent. C'est très bien pour elle. Mais je ne sais pas si c'est intéressant, surtout avec la politique qu'on essaie de développer, à demander justement... Monsieur le maire a parlé de fourrage et tout ça. Je ne sais pas si on en verra beaucoup.
Ou la question même du plan alimentaire territorial, le PAT, voilà, qui est mené à l'échelle de l'agglo. Ta question, elle est hyper pertinente. C'est un des débats où j'ai eu il y a quelques années au sein de l'agglo et dans le cadre de la foire de Brignoles, qui se tiendra la semaine prochaine, enfin à partir de ce week-end. On a eu des tables rondes justement à ce niveau-là. Et ce dont tu parles, Steve, c'est ce que moi j'appelle le PLU de l'agriculture. C'est-à-dire, c'est d'avoir un document qui permette de réglementer et qui dise, ben là, la vigne, c'est bien, parce que ça permet de faire de vivre, c'est toute une économie à l'échelle du territoire qui est importante, qui fait vivre des familles. Mais là, il y a des enjeux importants en termes d'alimentation locale et il faudrait préserver ces zones. Malheureusement, on n'a pas l'outil législatif, il n'existe pas. Donc, la réflexion pour moi, c'était de dire, on peut pas le cadrer, ça, on n'a pas le droit. On peut ouvrir des zones à agriculture, mais on ne peut pas dire c'est agricole pour du céréal, c'est agricole pour de la vigne, c'est agricole pour les oliviers. Par contre, quand tu vois, par exemple, si on travaille dans la zone secteur de, où il y a des pointillés, c'était plutôt en terre de colline. Faire de la vigne là, ça va être compliqué. Par contre, développer de la pistache où il y a des réflexions ou autre, on va pouvoir contraindre par stratégie, en fait, en fonction de la valeur agronomique des sols. Mais malheureusement, une belle plaine agricole qui est à l'irrigation, si quelqu'un veut planter des oliviers et faire des olives alors que tu aurais plus la place de faire du maraîchage, malheureusement, ça n'a pas la main dessus.
C'est pour ça que je suis inquiet, c'est parce que la zone en pointillé, pour l'instant, il y a une très belle course nature qui s'y déroule. Mais j'ai quand même pu voir, et non loin d'ici, pour citer ne serait-ce que Brignoles ou même Corrence, oui, c'est en colline, j'ai vu des forêts se faire abattre et des bulldozers aplanir la colline pour planter des vignes. Donc oui, comme ça a été dit, on ne va pas planter des vignes parce que c'est en pleine colline, ça. Il n'y a pas de limite. Donc c'est pour ça que la zone en pointillé, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une belle forêt parce que c'est joli? Parce que quand on va sur ces sentiers-là, déjà, la carrière du juge qui est censée être invisible de l'extérieur, ce n'est pas très très joli quand même. Et puis ça nous fait un peu mal au cœur. Même si on est bien content d'avoir une activité dans ce sens-là. C'est pour ça que ça me fait un peu peur, cette partie en pointillé, si on ne peut pas maîtriser tout ça.
Mais l'idée, c'est, par contre, c'est dans le zonage. Dans ce que tu vas proposer comme zone, en fonction de l'activité, tu vas pouvoir contraindre aussi. L'idée, c'est dans la zone pointillée, et là, il faut qu'on travaille avec la chambre d'agriculture, mais aussi avec différents syndicats agricoles. C'est les fonds de vallon. C'est pas aller en crête, hein. Il faut garder les forêts en tête, et c'est plutôt aller sur les espaces qui brûlent régulièrement, bah, ou des flammes par exemple, et c'est pas pour rien qu'ils s'appellent comme ça, c'est qu'ils brûlent tout le temps, donc à un moment donné, on peut peut-être arrêter de vouloir faire pousser de la forêt là où ça brûle tout le temps. Donc c'est juste, voilà, essayer d'avoir des dimensions qui font qu'on pourrait contraindre plus facilement. Ça, c'est un premier point. Après, il y a la question, si on veut valoriser le patrimoine lapidaire, c'est la protection des restanques. Et tu peux contraindre dans le règlement d'urbanisme, on peut avoir une activité agricole, par contre, les restants, il faut les préserver. Et donc, tu ne fais pas... Et c'est par ces outils-là qu'on pourra orienter les choses. Mais de là à dire, tu as le droit de planter du poireau et ici des patates, ça n'existe pas. Ça n'a pas le droit pour l'instant. Non, mais... En gros, ce que tu mets en avant, c'est un gros sujet, c'est la concurrence qu'il y a entre le modèle viticole avec le reste de l'agriculture. Et ça, c'est tout l'enjeu du département du Var. Et on le voit très bien même dans la chambre d'agriculture, elle est très bien représentée par les viticulteurs, et c'est économique, c'est le fleuron économique du département, et les autres professions agricoles, eh bien, sont sous-représentées et ont peu de pouvoir. Et ça, on le voit même jusque dans les préemptions, dans les achats de terres, etc. Il y a une concurrence qui se vit au quotidien entre les différents agriculteurs à ce niveau-là. Et c'est là où il faudra qu'on soit assez fin, et après, malheureusement, on arrive à la limite de l'exercice de ce qu'on peut faire, quoi. Mais tu soulèves un réel problème. Jean. Oui, Jean.
Tout à l'heure, vous avez parlé des terres. Est-ce qu'on ne pourrait pas, un exemple dans les zonages, je parle un peu aussi à Julien, il y a des terres qui sont plus propices au vignoble, il y a des terres qui sont plus propices au maraîchage, il y a plus d'eau, il y a des terres plus propices aux oliviers. Pourquoi on ne pourrait pas déterminer par rapport à la terre ce qu'on peut planter? Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? Au moins, il n'y aurait pas plus de problème.
Oui, non, c'est vrai, ça rejoint la question de Steve, mais c'est une question qu'on s'est déjà posée. Il n'y a pas d'outil légal. On ne peut pas flécher, on s'était déjà renseigné, on ne peut pas flécher la destination d'une terre. On peut juste dire c'est agricole, mais on ne peut pas dans le règlement indiquer la direction. Mais alors après, il va falloir feinter un petit peu. Une parcelle qui va être un petit peu trop petite, qui ne va pas être mécanisable pour de la vigne ou qui ne va pas être intéressante à planter. Sur 5000 m2, on fait déjà pas mal de maraîchage, mais il y a juste 5000 m2 mal foutu, ce n'est pas intéressant peut-être pour un viticulteur. Donc il y a peut-être des stratégies comme ça à contourner. En revanche, on ne peut pas réglementairement...
On ne peut pas classer les terres par rapport à la terre elle-même.
Et alors, il faut saisir nos sénateurs et notre député pour faire remonter au niveau en haut, parce que effectivement, c'est un point important. Et on se rend compte qu'on se heurte là à des modèles où il y a une disparité dans les moyens financiers même entre les vitis et puis les autres activités, notamment le maraîchage.
Ce que l'on peut contraindre en agriculture, c'est est-ce qu'on peut construire un bâtiment ou pas? Est-ce que ce bâtiment, il a destination de l'activité agricole ou de l'habitation d'agriculteur? On peut contraindre les haies, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est le PLU de Corrance, je crois qu'il y a ça, c'est-à-dire que toute surface de plus de X mètres carrés, par exemple, ou de 1 hectare, doit avoir une haie bocagère qui protège. Donc ça permet, à partir de ces outils-là, de définir des tailles d'unités agricoles. Est-ce qu'on peut avoir ce zonage-là en disant dans ce secteur-là où c'est plutôt avec du maraîchage qui est propice au maraîchage, on définit des petites unités agricoles. Et dans ce cas-là, on favoriserait plus cette orientation. Voilà, c'est des outils, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Mais le PLU est déjà très fort, il est très sur la partie de la façon de vivre, sur les unités d'habitation, etc. Mais la partie agricole, comme les forêts, on dit un endroit est propice à une forêt, on le classe. On ne peut pas dire qu'il faut planter, on ne peut pas planter de cactus. Par contre, on peut demander sur la partie plantation des haies, on peut imposer dans le PLU les essences des végétaux. Ça en a le droit. Oui, monsieur Lassoc, Julien.
Oui, je reviens sur une remarque de Steve là, sur l'espace agricolable. Bon, c'est dommage juste qu'Olivier soit pas arrivé parce que c'est un bon exemple d'activité agricole dans une optique de lutte contre les incendies, puisque la bande, la BDS, la bande des broussailles de sécurité autour de la piste, est en convention avec Olivier pour pâturer les brebis, pour maintenir la végétation à un niveau correct, donc pour garder la piste des FCI fonctionnelle pour les moyens des pompiers. Donc là, on a l'exemple voilà, du maintien d'une activité là, du coup, pastorale dans une optique de lutte contre les incendies. Je pense que c'est de ces choses-là qu'il faut s'inspirer pour le développement de cette zone. Mais ta remarque est pertinente. Il faudra bien veiller au règlement à éviter qu'on ait des plantations comme ça. C'est fait pas très loin.
Ça fait déjà un petit moment que j'avais demandé. Entre-temps, d'autres ont parlé. Mais je voulais dire un petit peu ce qu'a dit Jean Culinati. Et surtout que nos zones, elles ont déjà été définies par nos vieux, nos anciens. Ils savaient où il fallait faire du maraîchage. Ils savaient où il fallait faire de la vigne. Donc, c'est pratiquement déjà tout défini. Les zones maraîchères, ce n'est pas compliqué. C'est les bords de rivière. Tous les Valois de l'époque, quand il y avait 500 habitants, ils avaient tous leur petit lopin de terre au Loron, et ça continuait jusqu'au Rambao. Donc les zones, elles sont déjà définies par les vieux. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, puisque tu parles de forêt, c'est surtout ça, je suis un petit peu surpris de voir le nombre de forêts abattues pour mettre des panneaux photovoltaïques. Quand je vois Nicopolis, de la Provence verte qui va devenir une Provence noire bientôt au train, je ne suis pas contre les panneaux solaires, hein, mais j'ai l'impression qu'il y en a énormément qui se montent partout et on rase des collines. Ça a commencé chez nous avec Valeco sous le gouvernement Roitineau, et puis il y en a un peu plus loin, et puis il y a Nicopolis, et puis il y a Mazog. Et non, mais c'est vrai, j'ai peur, la Provence verte, elle sera Provence noire bientôt, parce que ça pousse de partout, hein, de partout. Alors les collines, là, ben, il y a du souci à se faire. Après, c'est sûr qu'il y a des endroits où, malheureusement, on devra les sacrifier, mais je trouve que ça prend des proportions assez importantes, sans parler de quand il va falloir détruire tout ça, quoi. Moi, je m'inquiète, hein, de la prolifération de ces zones. Il y en a des hectares de Provence noire.
Alors, pour te répondre, justement, le PLU permet de cadrer, d'autoriser les zones où on souhaite développer ou pas ce type d'installation. Donc l'inquiétude, elle est relativement faible. Une fois qu'on a défini la zone, on dit c'est là et c'est tout, ça ne sera pas ailleurs. Pour revenir sur la...
La
sur
vitesse à laquelle, dans le département, on envoie pousser... De
ces... Eh oui, mais c'est les PLU qui le permettent.
Oui, oui, mais je dis, ça inquiète.
Donc, on va s'occuper de notre PLU. Par contre, moi, je...
Je vois rien qu'au Valon, on en aura deux maintenant, quoi. Quasiment Brasse et...
Eh bien, c'est Brasse, c'est pas dommage.
Mais enfin, c'est à côté de nous, quoi.
Donc, pour revenir sur la question, il y a la question des canaux aussi. L'usage des canaux, il y a tout un travail qui a été fait et qui est fait en ce moment... En partenariat avec la SPN aussi, mais avec les services de l'État. Et ça, il faut l'intégrer dans le cadre du PLU. Et la question de l'eau sera prégnante aussi sur les modèles qu'on développera. Est-ce qu'on peut... Et la carte de synthèse, voilà, qu'on avait vue ensemble. Donc ça, c'est vraiment la carte de fonctionnalité avec les flèches qui représentent... vous avez les espaces, les corridors, ce qu'on appelle, qui est issu du diagnostic, corridor écologique et fonctionnel, et donc qui demande de préserver les milieux. Il y a les flèches noires. Vous pouvez descendre, monsieur Leroux, la légende, s'il vous plaît. J'ai un problème là. C'était la question de la mobilité. Et avec les machottes, on le revoit encore avec la route de Vins ou pas? Parce qu'on avait demandé qu'ils rajoutent. Il y est, ouais.
Le long de la route de Vins au-dessus, quoi. Donc voilà, c'est celui-là.
Tu le vois là. Petit et vert, c'est marqué.
Oui, on le revient depuis les machottes.
Ouais, mais là, il en manque un par rapport à la. Ah, si, oui, pardon. Oui, c'est bon. C'est une carte schématique, hein, donc qui définit les zones agricoles, les zones plutôt urbanisées actuellement, les zones avec les différents enjeux. Donc c'est vraiment la synthèse, c'est vraiment une carte qui est obligatoire dans la phase du PADD et qui permet de fixer les premières orientations dans la réflexion d'un pré-zonage. Donc on est vraiment au tout début de la réflexion. Et après, je voudrais, monsieur Leroux, si vous, dire explicitement, c'est, on le sait, mais les objectifs de construction, les objectifs... Il y a une partie dans le PADD. Voilà. Donc sur les orientations générales, voilà, c'est mettre en place donc une stratégie de planification afin de stopper efficacement l'étalement urbain et donc de réduire la consommation de manière significative. Hein. On passe d'un potentiel de 6500, 7000 à autour de 5200, ce que je vous disais. C'est respecter la réduction de l'espace pour les horizons 2030 de 50% de la consommation. Ça, c'est l'esprit de la loi ZAN. Réaliser une greffe urbaine d'environ 4 hectares à vocation d'équipements sportifs, de parcs et d'habitats sur le secteur Joubert élargi. Alors, c'est 4 hectares pas construits. Hein. C'est la zone qui fait 4 hectares et qui contient les parcs et les différentes installations, je précise. C'est réaliser une extension urbaine d'environ 2 hectares à vocation d'équipements publics sur le secteur de l'école pour répondre aux besoins de la commune. Donc, ça, c'est la zone 2 que je vous ai présentée tout à l'heure. Pareil, avec une forte présence de parcs. Réaliser une extension modérée de la zone d'activité artisanale du plan de quartier sur une surface d'environ 1,2 hectare environ pour permettre le déplacement du centre technique communal et l'accueil d'entreprises artisanales et locales. Il y a également la réserve communale de sécurité civile. Travailler sur les formes urbaines mixtes qui permettent de tenir les objectifs de modération de la consommation de l'espace tout en répondant aux objectifs d'accueil de population. Et prévoir une densité moyenne d'environ 20 logements à l'hectare en densification en favorisant l'optimisation du foncier. Et enfin, c'est prioriser la mobilisation des dents creuses et encadrer la densification au contexte urbain, privilégier le renouvellement urbain, c'est-à-dire en gros utiliser le foncier plutôt village, et la remobilisation des logements vacants, puisqu'il y en a plus de 100. C'est 10% du logement, du parc logement ovale qui est vacant. Donc voilà un petit peu les orientations générales. Est-ce que vous avez des questions avant que je fasse la lecture de la délibération ? Bon, après, c'est des éléments où on a déjà travaillé dessus. Donc je vous propose formellement là, de lire la délibération, parce que c'est un document qui est quand même très très important. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles 151-5 et suivants, vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles 153-12, 153-31 et suivants et L101-2, vu la délibération numéro 2020-107 du 16 octobre 2020 relative à la prescription de la révision du plan local de l'urbanisme, vu le projet de PADD réalisé par la commission municipale en charge de la révision du PLU, considérant la réunion de concertation publique du 7 mars 2023 sur la définition des axes du PADD, considérant la réunion des personnes publiques associées qui s'est tenue le 14 mars 2023 sur la définition des axes du PADD, considérant la réunion publique qui s'est tenue le 28 mars 2023 sur la présentation des axes du PADD, ayant entendu l'exposé de M. le maire, lequel a rappelé les orientations générales du PADD définies suite à l'état des lieux et les premiers enjeux du diagnostic, le projet d'aménagement de développement durable qui figure en annexe à la présente délibération est structuré en 6 grandes orientations, composer le village de demain solidaire, intergénérationnel et respectueux de son environnement. C'est donc composer le village de demain passe par la garantie du respect du cadre de vie, l'encouragement de la solidarité qui caractérise le Val et favorise les liens intergénérationnels. Cette orientation porte sur des actions et opérations favorisant la redynamisation du centre du village, des formes urbaines respectant l'esprit village et ses quartiers environnants, la garantie d'une offre d'habitat intégrant le parcours de vie des habitants, le contexte d'une commune située dans un écrin de nature. Deuxième orientation, c'est assurer la continuité paysagère entre les espaces naturels et urbanisés. Donc ça correspond à assurer la continuité entre les espaces naturels et urbanisés. C'est donc vouloir préserver les paysages qui caractérisent le Val. C'est également lutter contre la banalisation du territoire pour finalement faire émerger une identité propre à la commune. La notion du village-jardin et ses espaces de verdure se définit plus particulièrement dans cette orientation comme étant au service des habitants, de la biodiversité et de la ressource, mais aussi comme un capital potentiel en termes d'image et d'économie locale. Orientation 3, développer le Val en respectant les cycles de l'eau. Le cycle de l'eau est la composante indispensable de la commune d'aujourd'hui et de demain. Lamartine ne disait-il pas, les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. Il est primordial d'intégrer cette orientation afin de préserver la ressource en eau et garantir son accès pour les générations futures. La question de l'atténuation des aléas climatiques et des conséquences des risques associés est également majeure. L'eau au Val, c'est enfin un point de départ idéal pour cultiver le cadre de vie, entretenir la biodiversité et repenser l'attractivité. L'enjeu réside donc à trouver le bon équilibre. Orientation numéro 4, repenser une mobilité sobre en énergie et au service du territoire. La question du déplacement constitue un enjeu important pour les territoires ruraux. La configuration urbaine actuelle du Val impose de repenser le schéma de mobilité interne à la commune, mais aussi les connexions avec les communes avoisinantes du même bassin de vie. Repenser la mobilité, c'est à la fois réparer les choix urbanistiques du passé, entre parenthèses quartier coupé ou isolé, et imaginer des alternatives et de nouvelles formes de déplacement. Orientation numéro 5, encourager une agriculture adaptée au territoire au service des habitants et respectueuse de la qualité de vie. La présence de l'agriculture est encore fortement visible sur la commune du Val, notamment dans la façon dont elle a façonné le territoire. Aujourd'hui, si elle veut perdurer, l'activité agricole doit répondre à de nouveaux enjeux, à la fois économiques, alimentaires et environnementaux. Le maintien d'une activité économique autour des productions emblématiques doit être concilié dans une démarche de reconquête agricole, au renforcement d'une filière alimentaire locale s'inscrivant dans le projet d'alimentation territoire, le PAT. Avec des pratiques renouvelées qui assureront une agriculture durable. Voilà, Steve, c'est ce qu'on a inscrit en tout cas dans les objectifs. Participer pleinement aux défis de la transition énergétique et climatique, c'est la sixième et dernière orientation. Le développement du Val ne peut se penser aujourd'hui que s'il répond pleinement aux enjeux géopolitiques, énergétiques et climatiques. Le triptyque sobriété, efficacité et résilience peut servir de guide pour remplir ces objectifs. La sobriété vise à la préservation des ressources, qu'elles soient spatiales, en luttant contre l'étalement urbain ou énergétique, ou maîtrisant les consommations. L'efficacité a pour objet l'utilisation judicieuse et rationnelle des ressources. Enfin, la résilience doit inscrire le territoire sur une trajectoire qui lui permette d'absorber les changements à venir. Ces six grandes orientations seront à chaque fois développées à travers le prisme des trois points de vue qui, pour rappel, sont l'identité du Val, l'humain et le vivre ensemble au cœur du patrimoine. L'identité, ce n'est pas seulement l'image du Val pour l'extérieur, c'est la connexion des habitants à la commune, la manière dont ils s'identifient à elle, à leur quartier, aux autres habitants. Cela reprend les enjeux du bien-être et du bien-vivre au Val. Ce point de vue vise à respecter les identités de la commune au travers d'axes permettant la mise en valeur du patrimoine paysager, bâti, social, culturel et d'envisager son développement dans une démarche solidaire et intergénérationnelle. La notion de qualité du cadre de vie est ici fondamentale. Enfin, l'attractivité du Val, c'est une dynamique choisie et assumée. Une commune attractive, c'est un territoire capable d'attirer et de retenir les populations grâce à ce qu'il offre. Il s'agit de développer l'attrait du Val à la fois sur les plans de l'économie, commerce, services, tourisme, événements, du social, résidentiel, lien, solidarité et de l'environnement, qualité et cadre de vie. Ce point de vue définit les orientations permettant au Val d'être une commune vivante, accueillante et attirante. Et enfin, le dernier prisme, c'est la transition du Val, la résilience comme moteur d'une évolution maîtrisée. La transition regroupe les initiatives à l'échelle du Val pour assurer la résilience de la commune, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter et fonctionner malgré les perturbations extérieures, par exemple crises climatiques, sanitaires, économiques. L'adaptation face au changement climatique est donc indissociable des enjeux d'accès aux ressources et de biodiversité. Il s'agit de permettre au territoire d'évoluer et d'anticiper les besoins à venir. Ce point de vue aborde la façon de produire un développement et un aménagement de qualité dans le respect des capacités du territoire, tout en prenant en compte les défis de la transition climatique, énergétique et citoyenne. Le projet d'aménagement et développement durable, PADD, est une pièce centrale du dossier du plan local d'urbanisme, fixant les objectifs de politique d'aménagement et de développement durable que le territoire souhaite mettre en œuvre. Il répond aux besoins et aux enjeux du territoire communal et exprime une vision stratégique du développement du Val qui fera l'objet d'une traduction réglementaire au sein d'un rapport de présentation, un règlement et à travers un document graphique. L'article L153-12 du Code de l'urbanisme mentionne qu'un débat doit avoir lieu au sein du conseil municipal sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable au plus tard 2 mois avant l'arrêt du projet, débat que nous avons fait ce soir. Aucun vote n'est nécessaire concernant le projet d'aménagement et de développement durable. Un simple débat est requis au sein du conseil municipal sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Après avoir présenté le PADD, le débat s'est donc déroulé. L'essentiel des discussions a porté sur les points que nous avons vus, les différents points qui vont être reportés par le secrétariat. Ainsi qu'après avoir débattu sur les orientations générales du PADD, conformément à l'article L153-12 du Code de l'urbanisme, donc le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé, après en avoir délibéré, donc il est proposé de décider un article unique, d'acter le débat tenu ce jour en Conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et développement durable, pièce maîtresse du plan local d'urbanisme de la commune du Val. Nous actons que nous avons fait le débat. Tout le monde est d'accord ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, on a vraiment pris le temps. Il n'y avait que 2 délibérations, mais ça fait plus d'une heure que nous sommes là, pour vraiment échanger à ce sujet. Je vous informe qu'il n'y a eu aucune décision prise depuis le dernier conseil municipal de la semaine dernière, donc depuis le 7/04/2023. Bien, écoutez, je vous remercie. Il est quelle heure ? 19h43 et donc la séance est donc levée. Je vous remercie.